Là, par contre, ça avait produit des pataquès familiaux. Les parents n'étaient pas franchement ravis de voir les gendarmes débouler à 6 h du matin dans leur pavillon avec les chiens, etc., et mettre toute la maison sans dessus. Pour la plupart, c'est à cette occasion qu'ils découvraient que leur enfant consommait du cannabis. Et ça n'offrait pas précisément un levier à la communication entre ados et parents par le biais de professionnels autour de ces consommations. Bon, autre chose concernant les effets du produit, des effets qu'on connaît moins. Et ça, je crois que c'est tout à fait important que... cette information soit véhiculée le plus possible vers le plus large public, ce sont les risques que la consommation de cannabis produit sur la vigilance. Le cannabis est un sédatif, les gens le reconnaissent, surtout on prend ça pour rire, pour être de bonne humeur, pour faire la teuf, etc. Mais ce qu'on identifie moins, c'est que c'est un sédatif. C'est quelque chose qui fait piquer du nez. Et pour certains... Comment dire ça ? Certaines variétés de cannabis consommées sont très concentrées, très fortes, et il n'y a pas besoin de fumer beaucoup de joints, quelquefois, pour être vraiment dans un état d'ivresse prononcée. S'ajoute à ça ce qu'on appelle la tolérance individuelle, qui fait qu'à l'instar de l'alcool, les individus peuvent réagir d'une façon très différente de l'un à l'autre face à l'ingestion plutôt l'inhalation, là, dans ce cas-là, d'une quantité identique de produits. C'est comme pour l'alcool. Il y avait des gens qui boivent un verre d'alcool qui restent imperturbables et d'autres qui s'effondrent, qui roulent sous la table. Donc ça, on le trouve aussi pour le cannabis. Alors, ce qui s'opère dans tous les cas, c'est que le cannabis altère la vigilance et par là même altère les réflexes. Alors, ça peut être gênant déjà dans la rue. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui me disaient « Eh bien, j'ai failli me faire dépouiller par une bande que j'ai croisée l'autre fois parce qu'ils ont vu que j'étais pas clair, ils l'ont senti. Et heureusement qu'un copain passé par là en voiture m'a fait signe, que je l'ai appelé, qu'on est parti. Ou heureusement que j'étais plus très loin de chez moi. Heureusement que j'ai fait comme si je les voyais pas et que j'ai commencé à trottiner pour aller un peu plus vite. Sinon, il y avait quelque chose d'un peu prédateur, d'un peu animal dans le regard de ces jeunes-là. Je pense qu'ils ont très bien senti que je n'étais pas en possession de tous mes moyens et donc que je constituais une proie moins coriace pour eux potentiellement que si je n'avais pas fumé. Donc il y a des choses très concrètes à ce niveau-là et inversement, des jeunes se sont dit malheureusement, il y a un moment j'étais tellement à côté de mes pompes, j'avais fumé plusieurs joints, et bien que d'autres jeunes sont arrivés par surprise et puis m'ont dit donne ton fric, donne ton portable, etc. J'étais pas en position de me bagarrer quoi. J'avais l'impression d'être de pédaler dans le yaourt, etc. J'étais pas clair quoi. J'étais trop assommé, trop cassé par le produit. Donc ça, c'est une occurrence, mais la plus fréquente, et là, c'est là où nous, professionnels, on rame énormément en termes de messages de santé publique, que là, on adresse à tous les consommateurs de produits de cannabis et à tous leurs parents, ce sont les risques ce sont les risques pris au volant après une consommation de cannabis. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire le plus souvent ? Des jeunes me disent « Ouais, monsieur, mais il n'y a pas de problème. Quand moi, je fume un pétard, je reste clair. » Je suis zen, je suis bien, je n'ai pas envie de dormir. Alors que si je bois de l'alcool, c'est clair, là je vais en avoir un coup dans le nez, etc. Donc je prends ma voiture en rentrant ou même je ramène les copains. Ça ne présente aucun risque, j'ai jamais eu de problème. Sauf que j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, l'alcool est un produit franc, alors que le cannabis est un produit traître. Là, il ne s'agit pas encore de diaboliser le produit, mais de dire la réalité de ses effets. À savoir que l'alcool, si vous êtes vraiment ivre, eh bien, vous êtes assommé, on pourrait dire, tant physiquement, de façon votre sensation corporelle, que dans votre tête. Vous le sentez que vous êtes ivre. Alors qu'avec le cannabis, il se produit ce que les médecins appellent une dissociation neuromusculaire, une mauvaise coordination neuromusculaire. Pour dire les choses autrement, ça va se traduire par le fait que si vous êtes au volant en ayant fumé du cannabis, l'information visuellement va être correctement traitée, encore que vous perdez un peu latéralement de champ de vision, un peu rétréci, comme c'est le cas avec l'alcool d'ailleurs. Encore que il semble que l'appréciation des distances soit un petit peu altérée. Mais ce qui se produit surtout, c'est que même si globalement, vous avez une idée à peu près juste de votre environnement, si vous devez donner un grand coup de volant ou un grand coup de frein, et là, qu'est-ce que vous découvrez ? La carcasse ne suit pas. Le corps vous laisse tomber en quelque sorte. Et donc là, il y a une perte de réflexe et de qualité du geste qui est tout à fait comparable à celle que produit l'alcool. Sauf qu'avec l'alcool, on le sait. Alors qu'avec le cannabis, malheureusement, certains jeunes, pour en être convaincus, eh bien, ont dû le découvrir, et quelquefois en prenant des sacrés risques, c'est-à-dire en ayant un accident de voiture. Et certains, on peut le penser, l'ont compris en une fraction de seconde, mais ne sont plus de ce monde pour pouvoir en témoigner. Je me souviens d'un jeune qui me disait, j'étais avec un copain, on rentrait, c'était l'été, il faisait très beau, 9h30 du soir, le soleil avait commencé à se coucher. Je revenais au village, une route que je connais par cœur, je parcours tous les jours. C'est un jeune de 20 ans qui travaille, qui a une voiture, qui habite chez ses parents et qui fume du cannabis tous les jours ou tous les soirs. Et qui m'a dit, on était en train de rire, on était bien. Pas de brouillard, la route était droite, etc. Puis juste avant le village, eh bien, il y a un virage que je connais bien. On faisait les 400 coups dans le coin et un bois à côté quand on était plus petit. Et on a vu le virage approcher et on a rigolé du virage en repensant à tout ce qui est nos souvenirs d'enfance, au-delà, etc. Et puis on a vu le virage approcher et on riait toujours. On a ri. Et d'un seul coup, je me souviens, la voiture a fait plusieurs tonneaux. Et puis on s'est retrouvé dans le champ. Et quand la voiture s'est immobilisée, mon copain braillait qu'il avait le bras cassé, ce qui avait confirmé. Ensuite, il y avait une fracture supracondylaire, l'humérus droit. Enfin, il y avait une fracture du coude. Et ce qui a valu d'ailleurs à ce jeune d'avoir des ennuis par rapport à la justice, parce qu'il était pleinement responsable de l'accident. Donc là, on voit bien que l'information était correctement traitée, mais que au moment où la personne a donné un coup de frein, c'était déjà trop tard. Il y a eu le réflexe, on avait pris un coup, l'ordre de freiner, si vous voulez dire, le temps qu'il parvienne aux muscles, c'était déjà trop tard. Ça a été corrélé par un magazine grand public qui s'appelle Auto Plus, vous connaissez peut-être certains, qui a fait une enquête officieuse avec des cobayes journalistes, enfin les gens de cette équipe, il y a quelques années, pour apprécier, donc avoir une évaluation un peu scientifique des effets du produit. Et on a constaté qu'à 80 km/h, normalement il faut 70-80 mètres pour s'arrêter par route sèche, ce qu'on apprend dans le code de la route, et bien là il fallait 5 à 12 mètres de plus. C'est quand même énorme pour faire la différence entre carton ou pas carton, quelquefois. Également, les cobayes étaient particulièrement sensibles à l'éblouissement. Ce qui se passait donc lorsqu'il croisait un autre véhicule avec ses phares mal réglés, l'éblouissement persistait de longues secondes après le croisement des deux véhicules, donc facteur de risque très important. Et puis enfin, la moitié des cobayes étaient devenus infichus de se garer en faisant un créneau. C'était devenu trop dur, entre la droite, la gauche, devant, derrière, c'était trop compliqué. Donc c'est clair, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir en tant que citoyen. Certes, le cannabis ne rend pas fou, le cannabis ne détruit pas le cerveau, le cannabis n'est pas forcément consommé dans un contexte de toxicomanie, de défonce. Simplement, eh bien, il peut amener divers désagréments, c'est un facteur de risque pour diverses choses de la vie quotidienne. Donc il faut le savoir, il faut que l'information circule. Alors maintenant, je vais revêtir ma casquette un peu plus psy. Qu'est-ce qu'on observe des différents rapports des adolescents au cannabis ? Eh bien, on a plusieurs cas de figure. Grosso modo, on peut en discerner quatre, même si, eh bien, on ne peut pas dire que chaque adolescent qui consomme du cannabis est figé une fois pour tout dans une de ces catégories. Il peut y avoir des passages de l'un à l'autre en fonction de stress, de je ne sais quoi, de traumatisme, ou au contraire d'événements positifs, d'épreuves surmontées. Vous avez tout d'abord les personnes qui vont fumer une seule fois. Alors pour certaines d'entre eux, pas de chance, les parents les surprennent en train de fumer le joint dans leur chambre, ou bien alors ils sont surpris en train de fumer sur un parking par la brigade anticriminalité, les policiers en civil qui passent par là. Et quoi qu'il en soit, donc un certain nombre de jeunes consomment du cannabis à titre expérimental, pour voir ce que ça fait, sous pression du groupe aussi, on pourrait dire, aussi parce que ça fait partie des expériences qu'on se sent tenu de faire lorsqu'on est adolescent à présent, mais ceci dit, ne souhaitent pas renouveler leur consommation. Alors qu'est-ce qu'on entend alors ? On leur dit, mais pourquoi ? Pourquoi n'avez-vous pas renouvelé à la différence de certains de vos copains ? Alors, il y a des explications déjà physiques. Il y a des gens qui disent, j'ai vomi, ça arrive. D'autres, j'ai eu mal à la tête. D'autres ont dit, je me suis mis à piquer du nez, c'était pas terrible. Ensuite, il y a des explications qui sont plus d'ordre relationnel, en disant, pendant la fête, ceux qui riaient en prenant, ils riaient de tout et n'importe quoi. Et moi, je n'aime pas cette forme d'humour. Je suis un peu exigeant, ça peut paraître bête, mais j'ai besoin que ça soit marrant pour que je rie. Et que ça soit vraiment partagé. Et ensuite, à la limite, que ce soit de vraies histoires drôles. Donc j'ai trouvé qu'il s'agissait là d'un humour facilement obtenu, qui était tout à fait artificiel et qui ne permettait pas vraiment de tisser des liens de complicité, voire d'amitié entre les participants à la fête. Donc, pour cette raison, je n'ai pas renouvelé ma consommation. Voilà ce que nous entendons. Il y a aussi des choses plus libidinales, on pourrait dire, du genre, j'avais un plan avec une fille, je commençais mes manœuvres d'approche, j'avais commencé à la baratiner, etc. L'affaire paraissait bien engagée, simplement, au bout d'un moment, j'avais tellement fumé que j'avais les yeux complètement éclatés, je tenais plus sur mes cannes, etc. La fille l'a très bien remarqué, et puis elle m'a tourné le dos, et j'ai su plus tard, elle a dit à ses copines, qu'est-ce que c'est que cette lavette, qui m'a fait du gringue, mais bon, je veux dire, après, il n'aurait pas pu assurer, moi je ne veux pas d'un mec comme ça, avec un type comme ça dans la rue, il nous arrive quelque chose, c'est pas lui qui va me défendre, ça serait un peu la honte, quoi, aussi. Donc voilà quelques exemples pour lesquels bien des adolescents consomment une fois mais ne renouvellent pas leur consommation. Ça, je dirais, c'est à peu près un ado sur quatre qui va consommer du cannabis. Après, ce que l'on a, et là c'est vraiment une grosse partie du bataillon, ce sont des adolescents qui renouvellent leur consommation, mais qui la restreignent au cadre festif de la fête. On fume seulement quand on est avec les copains. Le reste du temps, on s'abstient, on n'a pas besoin. C'est-à-dire que pour ces personnes, le cannabis sans le groupe, ça n'aurait aucun sens. Ça n'a de sens que parce qu'il y a de la convivialité. Donc les motivations, elles découlent un petit peu de ce que j'ai dit à propos des consommateurs expérimentaux, c'est que ces personnes ont besoin de se sentir plus joyeuses, d'améliorer leur humeur et de pouvoir rire de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir spécialement de l'esprit pour rire un bon coup dans ce cadre. Il y a aussi la recherche d'une certaine détente. Et chez certains utilisateurs, des jeux un petit peu avec la pensée, les images. C'est comme si les couleurs étaient vues de façon un peu différente. Quelquefois, l'imagination se trouve stimulée aussi. Même si les idées sont alors un peu fuyantes, même si après on ne se souvient pas de ce qu'on a pu dire, c'est bien dommage, c'est un moment où on perçoit les choses de façon différente et qui, cette façon différente, n'a rien de catastrophique. Alors là, il faut mettre un bémol. Certes, là, on voit tout à fait bien comment un usage festif de cannabis s'inscrit par rapport aux enjeux de l'adolescence, se démarquer des parents, parce que c'est moins souvent le truc des parents, le cannabis, eux sont plutôt restés à l'apéro, encore que les générations vieillissent, c'est de moins en moins le cas. Moi, je vois de plus en plus de parents qui eux-mêmes consommaient du cannabis. C'est aussi donc se démarquer des parents, rechercher le contact des autres adolescents, pour cimenter les expériences faites, le contact des autres ados, le cannabis est une expérience parmi d'autres. Donc pour d'autres, ça peut être la pratique d'un sport en commun, des prises de risque sur la route, je ne sais pas, un sport de l'extrême, un engouement culturel commun, groupe musical, etc. Donc le cannabis fait lien social, si vous voulez, agrégat, parmi d'autres procédés entre certains adolescents. Alors, le problème, on peut comprendre que ça soit en pleine cohérence, donc ce type d'expérience, par rapport à l'adolescence, mais quand on discute avec les jeunes, on est amené à faire plusieurs objections. D'abord, le fait que de fumer en groupe ne veut pas dire que tous les fumeurs sont sur la même longueur d'onde, sont dans le même rapport au produit. Ce qu'on dit quelquefois, c'est certes, Par exemple, toi, tu fumes pour t'amuser, mais qui te dit que parmi tes copains, il n'y en a pas, ils ne s'en trouvent pas, qui fument parce qu'ils sont mal dans leur peau et qui poursuivent leur consommation de manière solitaire lorsqu'ils sont seuls. Simplement par peur d'être éjectés du groupe, tout comme les mauvais buveurs ont peur, craignent les bons buveurs qui associent systématiquement consommation d'alcool et convivialité, eh bien, ces jeunes-là, eux, ne parleront pas du fait que pour eux, le cannabis vient en tentative d'atténuation d'un mal-être plus prolongé, on pourrait dire, que celui qui se produit normalement à l'adolescence. Donc, le message que nous adressons alors aux jeunes, et ça les parents peuvent s'en faire le relais s'ils ont un adolescent qui fume du cannabis dans un cadre de fête, c'est que il y a une part d'illusion, c'est-à-dire que derrière une pratique, une attitude commune, il y a peut-être des disparités individuelles plus ou moins masquées et peut-être des copains qui auraient besoin d'être soutenus parce qu'ils sont, eux, dans une consommation pas seulement récréative et donc ne visent pas seulement à améliorer leur humeur.